Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Bonfils Niongere.
Vous êtes branchés sur la radio Nzamba Gateka Kawe. Bienvenue dans l'actualité de ce lundi dont voici d'abord les principaux titres. Les fonctionnaires de l'État de la mairie de Bujumbura ont arrêté le travail ce lundi pour faire la propreté dans leur milieu de travail conformément à l'appel du chef de l'État. L'ORCOM trouve que la mesure du président Ndayishimiye a été prise à l'avant-vite et qu'elle peut faire des effets négatifs sur l'économie du pays. L'inquiétude, c'est aussi au sein de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi. La maladie de la variole du singe risque de faire des ravages dans des prisons du Burundi où il y a une forte population carcérale. Enfin, le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. À l'occasion, le mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB appelle tous les jeunes burundais à combattre l'idéologie de division et d'exclusion sous toutes ses formes. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. L'appel du président de la République, Evariste Ndayishimiye, selon laquelle tous les fonctionnaires de l'État doivent consacrer cette semaine à faire de la propreté dans leurs locaux, a été observé ce lundi dans différents coins de la mairie de Bujumbura. L'objectif étant de faire Bujumbura une ville propre. Ce lundi, le chef de l'État s'est joint dans cette activité à la population du quartier Gikoto de la zone Moussaga. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ORCOM, reconnaît l'importance de l'hygiène publique, mais trouve que la mesure a été prise dans la précipitation et que les risques d'avoir des impacts négatifs sur l'économie nationale. Écoutez Gabriel Loufiri, il est président de l'ORCOM.
Vraiment, après tout au changement de mentalité, sinon de quoi vous dire que la mesure en soi vraiment ne va pas apporter beaucoup de choses s'il n'y a pas de mesures qui accompagnent. Par contre aussi, je voudrais encourager vous les journalistes d'organiser beaucoup de débats sur ces questions pour que les mesures prises soient des mesures qui vont beaucoup aider les citoyens. Vous savez, une mesure forcée, sans concertation, risque de causer beaucoup de dégâts, si je peux le dire comme ça, parce que les Burundais ne vont pas suivre la mesure. Donc, à marque d'année au niveau économique, car les gens ne travaillent pas, ça va se faire comment? Moi, je pense que le message qui a été donné va être encore communiqué pour qu'il y ait quand même des choses à suivre. Actuellement, c'est global, il n'y a pas d'air de débit, il n'y a pas d'air de faim, il n'y a pas des endroits, il n'y a pas... Donc, c'est une mesure vraiment qui n'a pas été étudiée minutieusement et mis dans un document pour que tout le monde suive une mesure créée. Est-ce que cette mesure concerne les agents de la capitale seulement? Ça concerne tout le monde dans les communes? C'est comment la mesure? Donc, c'est une mesure vraiment qui n'a pas été mieux étudiée.
Gabriel Loufiri, président de l'ORCOM, s'est exprimé ce lundi sur les ondes de la radio Bonesha FM. Cette mesure du président Ndayishimiye est une mesure impopulaire et contre-productive selon le mouvement MAP Burundi Buhire. Cette organisation trouve par ailleurs que la mesure est contraire à la vision du pays émergent en 2040 et développé en 2060. On écoute Libéa Ntibashakandi, il est le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire.
Ce choix du président est un signe d'un pouvoir faible. Il y a un problème sérieux de leadership. Le discours qui accompagne cette décision, un discours de dénigrement, un discours difficile à entendre. À côté de ce message, je dirais inacceptable, il y a l'image du président de la République. Voir un président de la République avec un balai dans la main et qui circule sur les réseaux sociaux, quelle image, quelle communication que le président de la République donne par rapport à l'image du Burundi. C'est vraiment sidérant. Il y a un problème sérieux de gestion du pays, gestion avec légèreté, qui se traduit en paroles malheureusement et en actes, et avec des contradictions. Tout le long des journées, je dirais, le chef de l'État parle de sa vision, de son rêve, hein, que dans 15 ans, le Burundi sera émergent et que en 2060, le Burundi sera un pays développé. Comment concilier l'émergence du Burundi dans 15 ans et en même temps empêcher les gens d'aller au travail, finalement de produire. Le président manipule le peuple burundais et un mensonge éhonté que le Burundi sera émergent en 2040. Par quel miracle? Cette histoire de nettoyer, est-ce que il n'y a pas au sein de la mairie de Bujumbura des travailleurs dont la mission première c'est de nettoyer les routes, faire la propriété dans la capitale? Un peu de mots, Mapurundi Buhire prône la refondation complète de la nation et de l'État burundais. Il est urgent, c'est le moment ou jamais, parce que tout simplement, le leadership actuel n'est pas à la hauteur. Je crois que les Burundais sont tellement fatigués et déçus par le discours mensonger, la manipulation et la gestion avec légèreté du Burundi, avec cette image d'un chef de l'État qui n'est pas à la hauteur et une communication dramatique qui ternit l'image de la nation burundaise.
Je vous le disais tantôt que l'action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi se dit fortement préoccupée par les dégâts que peut provoquer la surpopulation carcérale dans les prisons du pays en cette période de l'épidémie de la variole du singe. Jean-Claude Niburumusi, chargé des questions juridiques au sein de la Kat Burundi, pense que la santé des détenus risque d'être menacée si rien n'est fait dans l'immédiat. Suivez plutôt Jean-Claude Niburumusi.
La surpopulation carcérale au Burundi est un problème bien documenté, mais malheureusement encore largement ignoré. Des milliers de détenus sont entassés dans des cellules étroites, dépassant largement la capacité d'accueil. Cette promiscuité humaine favorise non seulement la propagation rapide des maladies infectieuses, mais elle empêche également toute tentative de distanciation physique, qui est pourtant cruciale pour limiter la transmission de la variole du singe. Par ailleurs, le manque criant d'eau potable dans les établissements pénitentiaires du pays constitue un autre facteur aggravant. L'accès à l'eau est essentiel pour maintenir une hygiène minimale, un impératif encore plus vital en période d'épidémie. Or, dans nos prisons, les détenus se voient souvent privés de cette ressource indispensable, ce qui rend toutes mesures de prévention sanitaire quasiment impossibles. En outre, la situation alimentaire dans les prisons est alarmante. Le manque de nourriture, tant qu'en quantité qu'en qualité, affaiblit considérablement le système immunitaire des détenus, les rendant encore plus vulnérables face à cette épidémie. Encore mal nourris ne peut pas combattre efficacement une infection, et le risque que la variole du singe fasse des ravages parmi la population carcérale est réel et imminent. Et face à cette situation, nous en appelons urgemment aux autorités compétentes et aux organisations humanitaires pour qu'elles prennent des mesures immédiates et adéquates. Il est impératif de désengorger les prisons en favorisant des alternatives à l'incarcération pour les délits mineurs, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et garantir une alimentation suffisante et équilibrée aux détenus. Des campagnes de sensibilisation doivent être menées et de toute urgence au sein des établissements pénitentiaires. Il en va de la santé, de la dignité et de la vie des milliers d'êtres humains incarcérés. Ils ont droit à des conditions de détention conformes aux normes internationales des droits de l'homme. Ne laissons pas alors cette épidémie se transformer en catastrophe humanitaire dans nos prisons. Agissons maintenant avant qu'il ne soit trop tard.
Inzamba. Le monde entier célèbre le 12 août la journée internationale de la jeunesse. L'occasion pour le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB, a exhorté les jeunes burundais à travailler pour leur avenir et surtout de barrer la route à toute idéologie divisionniste. Pour y arriver, Daniel Ngendakumana, porte-parole de ce mouvement, demande aux jeunes burundais de suivre l'héritage du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi.
Le mouvement international de la jeunesse burundaise appelle les jeunes à s'impliquer massivement dans les affaires politiques. Il est la partie de prendre en compte tout ce qui relève de la logique du changement, depuis le changement de mentalité, le changement de comportement, le changement des systèmes de gouvernance et le changement des enseignements idéologiques qui gangrènent notre pays. Le mouvement international de la jeunesse burundaise indique aux jeunes concernés que nous avons des repères à suivre, comme le prince Louis Rwagasore, qui a lutté dès son plus jeune âge contre le colonialisme et qui l'a vaincu. En fait, le mouvement international de la jeunesse burundaise saisit cette opportunité pour rendre virale sa mission, qui consiste à transformer la jeunesse burundaise en beaux acteurs du changement dans le système de gouvernance au lieu d'être des agents, des politiciens agitateurs ou qui prônent leurs intérêts propres ou des intérêts sectaires.
Et c'était hier dimanche 11 août que Paul Kagame a prêté serment pour son quatrième mandat à la tête de la République rwandaise. Les cérémonies se sont déroulées au stade Amahoro en présence d'une quarantaine de délégations venues de différents pays africains, dont 22 chefs d'État. Les grands absents étaient le président du Burundi et le président de la République démocratique du Congo. Tous les autres pays de l'EAC ayant été représentés. Des absences qui s'expliquent sans doute par le contexte sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Une situation sur laquelle Paul Kagame est revenu dans son discours. Le président rwandais a insisté sur l'obligation de chacun de jouer sa partition pour le retour d'une paix durable dans la région. On l'écoute.
In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world continue to create uncertainty.
Au cours de cette année, les différentes crises qui caractérisent notre région, notre monde, continuent à créer l'incertitude et la méfiance comme conséquence d'absence de résolution, d'inégalité et de double standard. La paix dans notre région est une priorité pour le Rwanda. En effet, elle a manqué particulièrement à l'est de la RDC. Mais la paix ne peut être établie par quiconque, à partir de n'importe où, peu importe sa puissance, tant que la partie directement concernée ne fait pas ce qui est nécessaire. Sans cela, les efforts sincères de médiation par délibérés régionaux mandatés ne peuvent pas marcher comme prévu. Et ici, j'aimerais remercier le président de l'Angola, le président Lorenzo, qui est là avec nous, et le président du Kenya, le président William Ruto, entre autres pour tout ce qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire. La paix ne peut pas venir d'elle-même. Nous devons tous jouer notre rôle et faire ce qu'il faut enfin d'atteindre et perdurer la paix. Ceci ne devrait pas être considéré comme une faveur pour quiconque. Pour chacun de faire ce qui est nécessaire pour que tout le monde ait la paix et jouisse de ses droits ne peut pas être une question de faveur, c'est une obligation. En fin de compte, quand ce n'est pas le cas, c'est la raison pour laquelle des gens se lèvent et commence à se battre. Cela devrait être compris comme une nécessité parce que il est question des droits des personnes et il ne peut pas y avoir une paix véritable si ces droits ne sont pas respectés. Tu ne peux pas te lever un jour et renier le droit à la nationalité à qui tu veux et penser t'en tirer comme ça. Il doit y avoir un juste milieu. Il doit y avoir un compromis.
Their citizenship right and expect to get away with it. There has to be a meeting in the middle. There has to be a compromise.
Dans la page sportive de ce journal, clôture ce dimanche des Jeux Olympiques à Paris avec les États-Unis d'Amérique au-dessus du podium. Au football, le Vitalo, le champion en titre du Burundi, poursuit ses matchs amicaux en vue de se préparer au match de la Ligue africaine des champions. Au basketball, c'est le début ce week-end de la phase retour de la Viva Basket League. Le point avec Alexandre Niyongeko.
À l'affiche des résultats de cette phase retour de la Vitalo Basketball League Elite 8, ce dimanche, Dynamo a largement dominé Gymkhana avec un score à 3 chiffres, 108 points à 64. Un score à 3 chiffres, c'est également pour Lunani qui a fait une promenade de santé devant Kern, soit 102 points à 43. Les Mecha ont battu Taïgas par 77 points à 66 et les Hippos sont venus à bout de New Star par 65 points à 44. Et samedi matin, les Mecha ont battu Gymkhana par 74 à 65 points. Taïgas s'est imposé sur Kern par 92 à 55 points. Victoire de Dynamo sur les Hippos par un score de 95 à 36 points. Balade de Lunani devant New Star avec un score à 3 chiffres, soit 102 à 66 points. Au football, Vitalo, champion du Burundi, continue les préparatifs de son match de samedi contre Young Africans. C'est dans le cadre de la Ligue africaine des champions. Samedi, Vitalo a fait un match nil d'un but partout contre Pamba Jiji de la Tanzanie. Et on boucle par les Jeux Olympiques de Paris 2024, dont les rideaux sont tombés ce dimanche. Les États-Unis d'Amérique viennent en tête du classement des médailles avec 40 en or sur 126 gagnés. La Chine vient en deuxième position avec 40 médailles en or sur 91 médailles. Le Japon complète le podium avec 20 médailles en or sur 45 au total. La France, pays organisateur, est venue en cinquième position avec 16 médailles en or sur 64 obtenues.
Merci Alexandre Niungeko et c'est par là que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.